Sud Radio.
Le grand référendum. 11h midi.
Philippe David.
Ah, vous connaissez notre Philippe David, hein, vous savez comment il est. Hein. Mais là, bon, c'est vous qui décidez, c'est vous qui parlez, ce sont les invités qui s'expriment aussi et les auditeurs de Sud Radio. La question du grand référendum. Faut-il obliger les élus à avoir un casier vierge? Vous nous dites ce que vous en pensez. 0826 300 300 si vous voulez passer en direct sur l'antenne. Vous laissez vos votes et vos commentaires également sur sudradio.fr.
Et oui, la députée Fanny Dombre-Coste et le sénateur Henri Cabanel, tous deux socialistes et élus de l'Hérault, souhaitent déposer un projet de loi visant à moraliser la vie publique. Il s'agirait d'élargir l'obligation de disposer d'un casier judiciaire vierge à toutes les formes de délits. Cette proposition de loi suit une pétition lancée sur Internet par Philippe Pascaud, qu'on connaît bien dans les studios de Sud Radio, pétition qui a passé les 103 000 signatures. Alors, faut-il obliger les élus à avoir un casier judiciaire vierge? Pour en débattre, j'aurai le plaisir de recevoir Philippe Gosselin, député de la première circonscription de la Manche, et Gilbert Collard, député Rassemblement Bleu Marine Front National du Gard et secrétaire membre du bureau politique du Front National. L'invité fil rouge étant Vincent Hédin, journaliste indépendant, auteur de l'ouvrage « En finir avec les fausses idées propagées par l'extrême droite » publié aux éditions de l'Atelier. La tradition de l'émission veut que l'invité fil rouge commence et conclue. Vincent Hédin, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. Alors, quand vous entendez, alors le débat du jour, ça va être sur le casier vierge des élus. Quand vous entendez cette proposition de loi faite par un député et une députée et un sénateur socialiste de l'Hérault, qu'est-ce que ça vous inspire?
C'est très bien. Je veux dire, depuis le 19e siècle, on a avec la crise du boulangisme, on a toujours eu des problèmes avec la moralisation de la vie publique.
Le boulangisme, je rappelle
pardon,
ce que c'est
pardon, pour le général boulanger. Donc le général Boulanger qui s'était lancé dans une grande marche publique, histoire de demander à ce qu'on moralise la vie publique. Au début du 20e siècle, on a eu le scandale de Panama, quand on s'est rendu compte que des tas de députés étaient mouillés dedans et touchaient des pots de vin pour encourager des souscriptions de ce fameux canal. Et puis
Panama.
Un siècle plus tard, vous voyez qu'on retourne au Panama avec les Panama Papers.
Voilà. Oui, mais là, c'est se fait plus par Internet, etc. Les Panama Papers, c'est un peu différent de l'affaire de Panama.
On progresse, on se modernise, mais la fraude fiscale, elle est toujours là. Le quinquennat de François Hollande a aussi été émaillé de scandales de cette nature. Évidemment, Jérôme Cahuzac, c'est-à-dire que c'est compliqué quand vous avez un ministre qui veut lutter contre la fraude fiscale et qui a lui-même un compte en Suisse et un autre à Singapour. Évidemment, Thomas Thévenoud qui avait une phobie administrative.
On a tous nos phobies.
On a tous nos phobies, mais celle des araignées est moins dérangeante par rapport au compte public, si vous voulez. Il y a un moment où les gens en ont marre.
C'était du second degré. Hein.
J'ai bien compris, mais moi j'en fais beaucoup aussi, je vous rassure. Non, partout dans le monde, il y en a. Vous savez, en Espagne, il y a deux grandes formations qui se sont créées au lendemain de la crise, qui sont Podemos pour la gauche radicale et Ciudadanos, les centristes radicaux. Et à chaque fois, leur demande majeure, c'est de dire moraliser la vie publique. En Italie, les Cinque Stelle et de Beppe Grillo, c'est dire moraliser.
Qui ont gagné la mairie de Rome.
Bien sûr, c'est dire moraliser la vie publique. En Angleterre, même chose, etc. C'est-à-dire que tant que vous aurez des scandales, tant que vous aurez un certain nombre de cas de corruption avérés, il est logique qu'on demande ça. Par ailleurs, vous avez une demande de plus en plus forte pour les voleurs de pommes. Vous voyez,
oui.
C'est-à-dire que dans la rue, vous sentez une demande montée pour les incivilités, les feux rouges, les agressions du quotidien. Et on demande systématiquement l'application de peines planchers. Je ne vois pas pourquoi est-ce que les élus s'exempteraient de ça. Donc il me paraît assez logique qu'un élu qui a été condamné derrière une peine planchée, donc la traduction pour un élu, ce serait qu'il encourt une peine d'inéligibilité d'une dizaine d'années, par exemple.
Philippe Gosselin, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio, vous êtes député de la première circonscription de la Manche et maire de Remilly-sur-Lauzon. Alors, cette proposition de votre consœur, puisque c'est une députée, Fanny Dombre-Coste, et de, c'est pas votre confrère puisqu'il est sénateur, Henri Cabanel,
oui.
Sénateur. Ah, vous n'êtes pas confrère, hein, parce que vous êtes parlementaire, mais vous n'êtes pas de la
non,
même
non,
chambre.
On va pas noyer les auditeurs avec ces détails, mais il y a quand même deux chambres, il y a l'Assemblée nationale et le Sénat, les deux sont très bien, allez.
Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette proposition d'obliger à avoir un casier totalement vierge pour pouvoir être candidat à une élection?
Bah écoutez, je crois qu'il y a une vraie question qui est dans l'air du temps et le fil rouge le rappelait à l'instant, depuis des décennies et on peut repartir du 19e siècle au minimum, il y a une exigence de transparence, de moralité et ça me paraît plutôt sain qu'on attende de ces élus qu'ils soient transparents et au-dessus de la mêlée. Donc ça ne me paraît pas totalement nouveau, c'est une exigence par contre qui devient de plus en plus forte. forte parce qu'en effet, on a eu un certain nombre d'affaires. Maintenant, vous avez évoqué Thévenoud, vous avez évoqué Cahuzac. Vous voyez bien que ces affaires, et on pourrait sans doute en citer d'autres à droite si ça vous faisait plaisir, parce que malheureusement, il y a aussi de part et d'autre quelques brebis galeuses. Mais pour autant, vous voyez bien que ça n'empêche pas qu'éventuellement des choses se passent après l'élection, puisque Cahuzac, comme Thévenoud, comme d'autres, ont rencontré des difficultés après l'élection. Donc il ne faudrait pas non plus laisser penser que l'alpha et l'oméga pour résoudre toutes les difficultés de corruption ou je ne sais quoi, passerait par un casier judiciaire vierge. Et puis on rappelle aussi qu'avec le temps, et c'est vrai pour n'importe quel citoyen, le casier judiciaire lui-même s'efface parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, les peines n'ont plus à y figurer. Et puis qu'est-ce qu'on met comme peine dedans? On peut tout mettre, mais on a aussi des élus comme n'importe quel citoyen qui ont eu un petit problème ou un problème plus important de permis de conduire. Est-ce que ça doit empêcher de se présenter? On voit bien que la moralité ou la bonne moralité n'est pas en cause dans ce cas-là. Donc voilà, moi je refuse pas d'ouvrir le débat et il me paraît très important dans cette époque où nous vivons avec des suspicions à tous égards, mais ne faisons pas prendre des vessies pour des lanternes.
Gilbert Collard, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio, vous êtes député Rassemblement Bleu Marine du Gard et membre du bureau politique du FN. Cette proposition de loi de votre consoeur et de votre confrère, je vais dire aussi, vous êtes dans le Gard, ils sont dans l'Hérault, qu'est-ce qu'elle vous inspire?
Écoutez, je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux. Il fut un temps, jusqu'en 1992, où on avait dans la loi la notion de peine afflictive et infamante. Cette notion a été supprimée. Quand on était frappé d'une peine dite afflictive et infamante, on ne pouvait pas occuper un emploi public ou accéder à une fonction d'importance. Cette caractérisation de l'infraction, qui permettait de sortir par exemple de l'infraction de conduite en état d'ivresse, ou de port d'armes prohibées, ou de diffamation, a disparu. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où toute peine pourrait entraîner l'incapacité à être élu. Les infractions n'ont pas toutes le même sens, c'est une évidence. Mais il faut quand même savoir que pour entrer dans la fonction publique, il est dit que si les mentions portées au bulletin numéro 2 du casier sont incompatibles avec l'exercice de la fonction, on ne peut pas entrer dans la fonction publique. Si on est frappé d'une peine qui est considérée comme portant atteinte à l'honneur, à la probité ou, vieille notion, aux bonnes mœurs, on ne peut pas devenir avocat. Encore qu'il y a eu des décisions qui sont allées à l'encontre de cette définition. Je ne vois pas pourquoi un homme politique qui subirait une sanction qui porterait atteinte à la probité, qui porterait atteinte à l'honneur, qui porterait atteinte à la définition très ancienne des bonnes mœurs, pourrait exercer un mandat. Je veux dire qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas devenir avocat si on a été condamné, qu'on ne puisse pas devenir fonctionnaire de la fonction publique si on a été condamné, et qu'on puisse espérer occuper des fonctions importantes en tant que député, sénateur, président de la République. Je veux dire que c'est une question fondamentale, d'autant plus qu'il y a aussi des procédures de réhabilitation. La personne qui a été condamnée à une peine assez lourde peut, au bout d'un certain temps, se faire réhabiliter. Si les magistrats considèrent qu'elle y a droit, à ce moment-là, il y a un effacement. Et puis, on a une contradiction dans la loi. Et moi, je veux rester juriste, là, hein, parce que je crois que verser dans le populisme du casier, c'est pas forcément une bonne solution. Bon. La personne est condamnée, si elle n'est pas réhabilitée, si elle est frappée d'une peine d'éligibilité, d'inéligibilité, est-ce qu'on doit considérer qu'à l'expiration de cette période d'inéligibilité, elle peut être éligible malgré la condamnation? C'est ça la question de fond, parce que les tribunaux peuvent prononcer l'inéligibilité.
Éligibilité pour une durée XYZ. Gilbert Collard, voilà, Sophie.
Donc, comment on concilie, pour être très clair, et je crois que c'est le débat.
On va en parler.
Les juges disent, monsieur, pendant un an ou deux ans, vous ne serez pas éligible, et puis qu'à l'expiration de ces deux ans, il puisse être éligible, et qu'on dise, qu'à cause de son casier, il ne pourra pas être éligible. Voyez-vous la contradiction qu'il faut résoudre.
C'est une vraie question dont on va parler un peu plus loin dans le débat,
oui,
Gilbert Collard.
Car il y a des auditeurs qui veulent s'exprimer, donc n'hésitez pas à nous appeler, à le faire encore jusqu'à midi pour répondre à cette question du grand référendum. Faut-il obliger les élus à avoir un casier vierge? Vous nous le dites au 0826 300 300 ou alors sur sudradio.fr. J'ai un peu l'impression quand même que ça remporte tous les suffrages, le nom. Je ne sais pas, Claire qui est arrivée, qui nous a rejoint. On fera un point juste après, mais en tout cas, vous pouvez continuer de voter. Les compteurs tournent, sudradio.fr, et on lira aussi vos réactions. À tout de suite.
Sud Radio,
le grand référendum, 11h midi.
Philippe David.
Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio jusqu'à midi, le grand référendum qui chaque jour sur Sud Radio vous pose une question. Aujourd'hui, faut-il obliger les élus à avoir un casier vierge? Vous nous le dites en nous appelant au 0826 300 300. Vous passez en direct sur l'antenne, vous dites absolument ce que vous avez envie de dire. On ne vous coupe pas, on ne vous filtre pas. Et puis sur sudradio.fr, puisque les compteurs tournent, vous pouvez voter oui ou non et laisser des commentaires. Claire, qu'est-ce qui se passe sur ce sondage?
Bien, vous êtes quand même une grosse majorité à dire oui, 97%. Donc,
ouf, c'est énorme ça.
C'est une majorité. Je crois que
c'est
j'ai
un score
jamais
nord-coréen,
vu
c'est ça?
Ah oui, là, c'est un score nord-coréen. Je crois que j'ai jamais vu un score à 97%. Une fois, j'avais perdu à 96%. Bah, c'était d'ailleurs en seul contre tous. C'était sur la Turquie dans l'Europe face à Gilbert Collard. Mais j'étais pas à 97, j'étais à 96 contre
alors, là, Killer, vous n'êtes pour rien. Là.
Oui. Killer a réagi. Il a dit oui, un élu de la République doit être irréprochable. Et il va de soi que son casier judiciaire doit être vierge. C'est ce que l'on demande dans certaines sociétés à l'embauche. Alors, une raison de plus pour un élu.
Remarque totalement audible et lisible, il n'y a pas de problème. Donc face à moi, je le recite, Gilbert Collard, député RBMFN du Gard, et Philippe Gosselin, député de la première circonscription de la Manche, membre de la cellule riposte de l'équipe de campagne d'Alain Juppé, j'avais oublié de le dire tout à l'heure, l'invité fil rouge Vincent Hédin, journaliste indépendant et auteur de l'ouvrage « En finir avec les fausses idées propagées par l'extrême droite » publié aux éditions de l'Atelier. Vincent Hédin, quand vous entendez la proposition de loi de Fanny Dombre-Coste, député socialiste de l'Hérault et du sénateur Henri Cabanel, député, même couleur, même sénateur, même couleur, même département, qu'est-ce que ça vous inspire?
Bah, encore une fois, ce que je vous disais, c'est qu'il y a une exaspération qui monte dans la société. On le voit très bien avec votre sondage. 97%, c'est effectivement...
Ah, c'est une belle majorité, on peut
dire.
Oui,
c'est une majorité brejnevienne. J'ai d'autres références, mais...
On était Corée du Nord, c'est pas
Corée
très loin géographiquement.
C'est pas très éloigné. Bah non, mais je reviens à ce que je vous disais et aux commentaires de Killer qui dit effectivement il y a un certain nombre d'entreprises où vous pouvez pas bosser si vous avez pas un casier judiciaire vierge.
Bah, exemple, les...
Charles de Gaulle.
Charles de Gaulle.
À l'aéroport, évidemment.
Les vigiles.
Les vigiles, dans l'éducation nationale, si vous avez des antécédents libidineux un peu compliqués, bah, évidemment, dans tout ce qui concerne les gamins, il y a des tonnes de boulot que vous ne pouvez pas faire si vous n'avez pas un casier judiciaire vierge. J'ai entendu nos deux élus
Philippe Gosselin et Gilbert Collard.
Et contourner un peu. Alors Philippe Gosselin de façon très modérée, mais Gilbert Collard, j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus gêné par l'idée de la moralité publique. C'est gênant. Premièrement, on ne parle pas d'une exclusion ad vitam aeternam. Philippe Gosselin, puisqu'il fait partie de la cellule riposte de Juppé, bah voilà, Juppé, il a payé pour sa peine, il est parti au Canada, il est revenu et tout va très bien. Mais il a purgé une peine, c'est normal et tout se passe très bien. Et pour autant, il n'est pas ad vitam aeternam interdit de vie publique. Après, est-ce que un excès de vitesse ou une infraction sur la voie publique, un PV, ça doit vous empêcher d'être élu? Non, mais on parle de cas et de condamnations très lourdes. Il y en a encore eu beaucoup. Je vous ai pris deux membres du gouvernement, mais il y en a d'autres.
Vous avez parlé de Cahuzac et de Thévenoud.
Oui, mais on aurait pu prendre Patrick Balkany pour être dans l'autre famille. Qui n'était pas au gouvernement. Et puis, on pourrait prendre des tas d'autres élus. Pour le livre, j'avais regardé entre 1997 et 2012, si on prend les sources de Europe 1 et de France Info, pardon, d'évoquer la concurrence. Mais...
Désolé, vous êtes sur Sud Radio, je le rappelle.
On avait regardé et on s'était rendu compte que 1,94% des élus PS avaient été condamnés, 2,87% pour l'UMP à l'époque,
ex-UMP, maintenant les Républicains.
Ex-UMP, désormais les Républicains, et 15% pour les élus FN. À l'époque, il y en avait très peu. J'imagine que Gilbert Collard nous dira que depuis la vague de 2014 et les nouveaux maires, les nouveaux conseillers généraux, etc., les nouveaux élus, tout a changé, mais on était à 15%. Donc voilà. Et à l'arrivée, c'est donc dans le cas du PS et des Républicains, une infinie minorité d'élus qui sont pris pour faute et qui jettent le discrédit sur l'ensemble de la classe politique. Alors qu'en réalité, 95% des élus de proximité, ils se défoncent, ils sont honnêtes et ils payent pour ce qui arrive dans les journaux. Donc l'idée de cette proposition de loi qui est de dire qu'il faut être plus sévère avec ceux qui sont en haut, c'est normal. Ils ont des droits, mais ils ont beaucoup de devoirs. Il y a une attente de responsabilité.
Alors,
plus forte.
Justement, le député et la sénatrice ont fait un communiqué dans lequel ils disent, je les cite, hein, « Il y a urgence à agir. On observe de plus en plus de défiance des Français vis-à-vis de la classe politique. Les Français ont le sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures avec les élus. C'est insupportable. » Vous en pensez quoi?
Mais je pense qu'ils ont raison. Enfin, c'est-à-dire que, est-ce que vous voyez quand même les affaires qui défraient en ce moment la chronique? Là, il y a une tolérance beaucoup trop grande. De manière générale, je décentre du politique, j'y reviens dans une seconde, mais il y a une tolérance beaucoup trop grande pour ce qu'on appelle la délinquance en col blanc. Voilà. Je veux dire, à chaque fois, les gens qui sont condamnés pour plusieurs millions d'euros, des détournements absolument massifs, ne prennent rien. Alors qu'hier soir, je dînais avec deux amis magistrats, c'était pas prévu, mais vous pouvez vous retrouver incarcéré en tôle directe pour le fait de ne pas avoir remboursé votre pension alimentaire à temps.
Ça arrive.
Alors, ça arrive.
Il y a même eu des gens cognons, ça s'appelle le chanteur Patrick Topalov, qui avait fini en prison parce qu'il avait eu sa pension alimentaire calculée sur ses revenus de l'époque où il avait du succès et qu'il ne pouvait plus payer le jour où il y a eu moins de succès, on va dire ça comme ça.
Bah, vous imaginez un peu la disproportion qu'il y a. Enfin, je veux dire, d'un côté, une demande de sévérité et de radicalité très forte. Et justement, je vais renvoyer Gilbert Collard à ses propres incohérences. C'est-à-dire que lui, il est en gros pour envoyer en prison l'alpha et l'oméga de la délinquance, de la petite délinquance de rue. Il est pour qu'on les envoie tout de suite en prison. Et d'un autre côté, pour les élus, là, il a eu des circonvolutions de langage et il a trouvé des détournements pour dire qu'il fallait peut-être pas trop les ennuyer. C'est incompréhensible.
Alors, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent pour réagir, comme Claude au 0826-300-300, le standard de Sud Radio. Bonjour, Claude.
Bonjour, Claude.
Bonjour.
On vous écoute.
Voilà, ce que je pense, c'est que dans tout ce que j'entends, on fait un amalgame entre le citoyen ordinaire, quel que soit son rang dans la société, et puis un élu. C'est-à-dire qu'un citoyen ordinaire, qu'il soit chef d'entreprise, qu'il soit ouvrier, qu'il soit ce que l'on veut, qu'il commet une faute, il est condamné par la justice. Une fois qu'il a purgé sa peine, il peut se réinsérer dans la société en retrouvant son entreprise, si c'est un chef d'entreprise, en retrouvant du boulot. Tandis que un élu du peuple, c'est quelqu'un à qui le peuple a confié une mission de confiance, et que ces gens-là, ils doivent être impeccables. C'est pas la même chose. S'ils ont commis une erreur, sont condamnés par la justice, et ils restent dans la société comme n'importe quel autre citoyen, et ne vient pas se mêler de politique.
Mais Claude, est-ce que vous, on doit faire la pause après, je vous pose une question, êtes-vous partisan des peines d'inéligibilité? C'est un peu compliqué à dire, à vie.
Oui. Pour un citoyen qui est condamné, ne peut plus avoir aucune fonction d'élu.
Eh bien écoutez, dernière question pour une réponse très courte, pour tout type de délit, l'inéligibilité à vie?
Je pense quand même qu'il faut faire une petite nuance entre celui qui est condamné pour une histoire de permis de conduire,
celui qui est condamné pour une affaire politico-financière.
Et puis des infractions. Mais ça, ce sont des nuances que des spécialistes peuvent très bien régler.
Merci beaucoup, Claude. Sophie.
Oui, la question du grand référendum, je vous la rappelle, si vous arrivez, si vous prenez l'émission en cours, comme on dit, faut-il obliger les élus à avoir un casier vierge? Vous nous le dites sur Sud Radio en direct au 0826-300-300. Vous votez car les compteurs tournent sur sudradio.fr. Vous pouvez aussi laisser des messages. Et moi, j'ai reçu un message d'un auditeur belge qui nous écoute sur sudradio.fr avec l'humour belge. C'est parfois plus dangereux un élu sans casier. Ça veut dire qu'il ne s'est pas encore fait attraper. Humour belge, les amis. Voilà. Allez, à tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio,
le grand référendum, 11h, midi,
Philippe David.
Chaque jour, vous avez la parole en direct sur Sud Radio, sur tous les sujets dont on vous parle à l'antenne. Et cette question du grand référendum, aujourd'hui, mardi jusqu'à midi, vous vous exprimez sur cette question. Faut-il obliger les élus à avoir un casier vierge? Qu'en pensez-vous? Vous votez, vous êtes citoyen ou même vous êtes élu. N'hésitez pas, vous nous appelez au 0826-300-300, le standard de Sud Radio. Et comme les compteurs sont ouverts sur sudradio.fr, vous pouvez aussi voter oui ou non et laisser des commentaires clairs. Il y en a, je crois.
Oui, il y a un commentaire de Dany qui dit « Faut avoir une mesure et donner une seconde chance pour des faits mineurs. Concernant des faits graves, il faut interdire complètement, certes. » Et ça, c'était sur sudradio.fr. N'hésitez pas à continuer à mettre des commentaires justement sur sudradio.fr, c'est intéressant.
Jusqu'à midi avec Philippe David et ses invités.
Et face à moi, Gilbert Collard, député Front National du Gard, Rassemblement Bleu Marine, membre du bureau politique du FN, Philippe Gosselin, député de la Manche, maire de Remilly-sur-Lauzon et membre de la cellule de riposte d'Alain Juppé. Philippe Gosselin, je vous fais réagir en premier, après on fera réagir Gilbert Collard. Vous avez entendu Claude, notre auditeur, qui dit que pour des faits graves, pour lui, l'inéligibilité, excusez-moi, c'est un peu compliqué à prononcer, à vie, ne lui pose pas de problème. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah écoutez, moi je pense qu'effectivement un élu qui a commis des faits graves doit payer, c'est-à-dire qu'il doit purger une peine, ou de prison, ou amende comme n'importe qui, ça ne me choque absolument pas. Qu'il y ait une peine complémentaire, parce que c'est un élu de la République qui vise à ce qu'il ne puisse plus être élu pendant X années, ce qui du reste est déjà possible aujourd'hui, ne me choque pas non plus. En revanche, le fait qu'on la fixe à vie me paraît une espèce de double peine qui, je l'entends bien, peut sans doute faire plaisir aux gens considérant qu'il doit payer jusqu'au bout. Et pour être très clair sur le plan juridique, je pense que ça ne serait pas conforme à la Constitution parce que ça serait une peine qui serait contraire au principe, si vous voulez, de rémission, d'amélioration, de repentance, etc. Donc on peut après faire varier les durées, 3 ans, 5 ans, 10 ans, etc. Mais une peine d'inéligibilité à vie me paraîtrait réellement excessive et en tout cas totalement exorbitante du droit commun qui n'est pas le droit de monsieur et madame tout le monde, c'est évident.
Mais par contre, il y a des gens où vous avez des peines à vie, par exemple, évidemment, Vincent Hédin en a parlé, si vous avez eu des problèmes libidineux avec des jeunes, vous êtes interdit à vie d'éducation nationale. Si vous avez commis un braquage, vous ne pouvez jamais rentrer dans la police nationale ou dans la gendarmerie, évidemment.
C'est évident, mais ça ne s'applique pas à vie en réalité, puisque passer 60 ou 65 ans, ce n'est plus applicable.
Oui, mais en ces cas-là, vous ne pouvez plus être recruté parce que vous avez passé la limite d'âge de recrutement.
Exactement.
Donc là, oui. Donc Gilbert Collard, vous avez entendu Claude, notre auditeur qui nous appelait, une peine d'inéligibilité à vie. Je pense que vous, vous n'êtes pas pour quand vous êtes pour une certaine rédemption en tant qu'avocat.
Non, mais écoutez, d'abord, je trouve que j'interviens très peu dans votre émission, ce qui me frustre énormément.
Vous allez intervenir plus, il n'y a pas de problème.
Oui, non, mais bon, sinon je retourne à mes travaux. Hein. Bon, ce que j'ai entendu tout à l'heure un des intervenants, je suppose que c'est le phobique de l'extrême droite. Et vraiment, je suis désolé que les bouchons auditifs idéologiques rendent sourds et bornés. Hein. Je vois pas où sont les incohérences dans ce que j'ai dit, et je vois pas où sont les circonvolutions. Je crois que j'ai été très clair. J'ai cité le texte sur la fonction publique, je le répète, pour les sourds, si les mentions portées au bulletin numéro 2 du casier sont incompatibles avec l'exercice des fonctions. On n'entre pas dans la fonction publique. Et j'ai ajouté, on doit appliquer cette disposition aux hommes politiques.
Gilbert Collard, excusez-moi, vous pouvez expliquer ce qu'est le bulletin numéro 2, parce qu'il y a le bulletin numéro 3. Bah, qu'est-ce que le bulletin numéro 2 ?
Le numéro 1 qui porte les délits et les crimes graves. Hein. Et il y a le bulletin numéro 2 qui est légèrement expurgé, et il y a le bulletin numéro 3 qui comporte les condamnations les plus minimes, quoi, voilà. Hein. Donc il y a une expurgation.
Qu'est-ce que vous appelez une condamnation minime ?
En fait, ce sont les contraventions, hein, ce sont les dispositions contraventionnelles, hein, par exemple.
Quand
hein.
Vous prenez une contravention, ça vous met un casier judiciaire ?
Ah oui, absolument, oui. Oui.
Ah bon,
oui.
Non, ben.
Et il faut un an, pour qu'il y ait une réhabilitation judiciaire et la réhabilitation légale est au bout de 3 ans. Donc c'est. Alors j'essaie de faire du droit, mais apparemment un de mes contradicteurs ne comprend pas. J'expliquais que on ne peut pas prendre toutes les infractions de la même manière. Mais celles qui portent atteinte à l'honneur, celles qui portent atteinte à la probité, celles qui portent atteinte à ce qu'on appelle les bonnes mœurs, ce sont les formules qu'on retient. Rendent, à mon avis, incompatible l'exercice d'une fonction publique. On évoquait le cas de M. Juppé, par exemple. Bon, il a été condamné pour une peine de prise illégale d'intérêt. Bon, c'est une peine qui porte atteinte à la probité, non ? Me semble-t-il. C'est une peine qui porte atteinte à l'honneur, à la considération. Bon, Donc je ne vois pas comment, à partir du moment où on a subi une condamnation de ce type, on peut exercer une fonction d'autorité. Et je posais la question que personne ne veut résoudre, c'est celle qui il y a du fait qu'on est condamné à une peine d'inéligibilité, c'est-à-dire que des juges disent que pendant un an, deux ans, vous ne pourrez pas exercer un mandat, et qu'après, vous pouvez l'exercer. Donc il y a vraiment une question législative à résoudre. Et on avait autrefois les peines afflictives et infamantes qui ont disparu. Il faut donc créer une catégorie d'infraction qui rendrait la fonction parlementaire, sénatoriale, présidentielle, incompatible avec l'exercice de cette fonction. C'est la vraie réforme législative, elle est là. Il faut reconstruire une notion criminologique, pénale, qui rend impossible l'exercice d'un mandat public.
D'un mandat public.
Je ne vois pas en quoi ce sont des circonvolutions ni des incohérences. Vous comprenez, on peut pas. Quelqu'un, par exemple, un homme politique, qui ne va pas payer sa pension alimentaire, c'est moche, c'est lamentable. Mais est-ce qu'on doit pour autant dire que c'est une peine, pour reprendre l'ancien langage, qui est afflictive et infamante? Alors j'ajoute, pour conclure, qu'on a à l'Assemblée Sylvie Andrieux, condamnée à une peine de prison ferme, qui siège encore sur les bancs de l'Assemblée.
Qui est députée des Bouches-du-Rhône.
Et qui est députée des Bouches-du-Rhône. Bon, je veux dire que il faut pas parler pour ne rien dire, on a des problèmes juridiques à régler. Alors bon, on peut vouloir toujours dire du mal de nous, mais tant qu'on n'aura pas réglé la contradiction entre la peine d'inéligibilité et le fait que cette peine, à un moment donné, est purgée, on aura des hommes politiques condamnés pour des prises illégales d'intérêt qui diront « mais j'ai purgé ma peine ». Or, non, s'il voulait entrer dans l'administration, M. Juppé, il aurait du mal. Parce qu'on considérerait peut-être que sa fonction est incompatible avec la condamnation, pardon, est incompatible avec l'exercice d'une fonction.
Avec l'exercice d'une fonction.
Allez, il y a des auditeurs qui veulent s'exprimer sur cette question. Faut-il obliger les élus à avoir un casier vierge? Vous nous le dites dans ce grand référendum au 0826 300 300, et vous êtes bien sur Sud Radio. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour.
Bonjour Pierre. Bienvenue sur Sud Radio.
Bien, merci de m'accueillir. Mais écoutez, ce que je vais dire, disons, va faire un peu redondance avec ce que disait Maître Collard. Je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses au niveau de politique, mais je pense qu'il a raison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un est condamné pour quelque chose de grave et d'infamant, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui, moralement, est honnête. Donc, à partir du moment où il y a une prise illégale d'intérêt, où il y a une magouille, où il y a un contournement de la loi pour des intérêts propres, pour bidouiller un petit peu pour soi ou pour d'autres personnes, pour moi, ça les exclut définitivement de tout mandat. Donc c'est vrai qu'il faudrait aller jusqu'au bout, comme vous le disiez tout à l'heure, un instituteur qui a été condamné pour
des attouchements
avec un enfant,
il est interdit à vie.
Même s'il se soigne, et je ne pense pas qu'un Balkany, je ne pense pas qu'une Andrieux, si elle se soigne, ou qu'un Juppé, s'il se soigne, ou qu'autre, s'il se soigne, n'est pas toujours une arrière-pensée de prendre une prise illégale d'intérêt dans ce qu'il fait. Donc pour moi, ces gens-là, il faut les bannir à vie.
Merci beaucoup Pierre. Je vais faire réagir Vincent Hédin, comme c'est l'invité fil rouge, sur ce que dit Pierre. Lui, il est partisan du bannissement à vie également. Ça prouve les 96 ou 97%. Ça fluctue entre 96 et 97%. Ça vote beaucoup. C'est quand même la vox populi, non?
Non, mais moi, je me range derrière le peuple.
Derrière la vox populi.
Derrière la vox populi, mais pour les cas extrêmement graves dont on a parlé depuis le début. Donc, je rassure Gilbert Collard, je ne suis pas sourd, sinon je n'aurais pas la chance d'écouter la radio. Encore que je crois qu'il y a des expériences désormais pour la rendre sous-titrée. C'est l'accessibilité de la communication, et c'est important. Non, mais très, très sincèrement, enfin, je comprends même pas.
Qu'on se pose la question. Qui est aujourd'hui, seulement aujourd'hui, en 2016, quand même, fin 2016, une proposition de loi.
Ouais,
c'est quand même un peu bizarre que ça ait été aussi long.
Mais parce que, souvenez-vous, au moment où on a passé les réformes des retraites sur les régimes spéciaux, et là, vous aviez une sévérité assez grande, du côté de la retraite particulière des élus, il y avait plus de mollesse. Donc, effectivement, il y a une sensibilité à géométrie variable.
Philippe Gosselin, vous avez entendu Pierre. Lui, c'est la vox populi. Vous avez vu les scores, 96-97%. Ils veulent une justice implacable avec les élus qui ne sont pas bien comportés. Vous avez envie de lui dire quoi? Tiens, c'est le mot qui revient souvent, populisme.
Oui, alors il y a sans doute peut-être une forme de populisme, mais moi j'écoute et j'entends la vox populi. 97% de gens qui s'expriment, c'est évidemment pas rien, même si ça n'a pas la forme d'un sondage précis, par quota, etc.
Ah, donc, 97%, c'est plus un sondage, c'est un plébiscite.
Non, mais attendez, je suis sûr que si on faisait un vrai sondage, on serait à 85 ou 90, donc là n'est pas la question, il n'y a pas de contestation. C'est évident aujourd'hui que le degré d'exigence envers les élus est de plus en plus fort, et j'ai tendance à dire, mais tant mieux, il n'y a aucune raison que les élus soient au-dessus des lois. Ce sont des citoyens pas tout à fait comme les autres, parce qu'ils ont des responsabilités particulières qui les amènent à manipuler à la fois des projets de l'argent public, et il me paraît tout à fait normal qu'il y ait une exigence très grande. En revanche, attention à ne pas tomber, et c'est là où ça pourrait devenir un peu populiste, attention à ne pas tomber dans le travers inverse, qui serait de faire du lynchage complet. Et je rappelle que dans les cas qui ont été cités précédemment, il n'y avait pas, et pour être très clair concernant Alain Juppé, il n'y a eu à aucun moment de l'enrichissement personnel. Je rappelle qu'Alain Juppé a payé et très durement ce qui s'est passé, qu'il s'est exilé
à la place de quelqu'un d'autre,
etc. Donc voilà.
À la place de quelqu'un d'autre.
Vous voyez bien qu'à partir du moment où on a payé, ce qui me paraît encore une fois normal, eh bien, on doit aussi, même s'il y a une certaine sévérité qui est attendue et entendue, il doit aussi y avoir une forme d'équilibre. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il est totalement indéfendable que les élus s'exonèrent, bénéficient d'un régime particulier, et je pense que c'est de moins en moins vrai. Les lois pour la transparence sont venues préciser un peu tout ça, les déclarations de conflits d'intérêts sont venues préciser tout ça, les déclarations de patrimoine qui sont désormais déposées dans les préfectures sont revenues aussi sur tout ça. Donc réellement, en quelques années, et pas simplement depuis 4 ans, on a un système qui converge pour que la transparence soit là, et ça me paraît tout simplement une exigence démocratique. Personne ne peut dire le contraire, et surtout pas moi, mais par contre attention au lynchage et attention de penser peut-être que un casier judiciaire serait l'alpha et l'oméga, et que pour autant tout serait fini, tout serait réglé dans ce bas monde. Je crois que c'est un petit peu plus compliqué que cela, et il y a aussi sur de tels sujets évidemment le droit à prendre en compte, parce que le droit n'est pas une matière applicable à Pierre, Paul ou Jacques de façon large. Le droit est applicable à telle ou telle situation qui doit être caractérisée, et en disant ça, c'est pas m'abriter derrière le droit, mais c'est bien effectivement considérer que le droit est un outil qui doit être utilisé à bon escient au service de la démocratie.
Gilbert Collard, quand vous entendez Pierre qui demande une peine implacable, quand vous entendez le score sur sudradio.fr qui oscille entre 96 et 97%, est-ce que vous dites nos concitoyens sont trop durs, ou est-ce que vous pourriez parler de populisme ?
Mais non, mais comment vous comprenez, dès l'instant où l'on essaye de rétablir la République dans ses fondements, aujourd'hui on est quasiment accusé de populisme. Que disent les gens ? Ils disent que si demain ils veulent exercer un travail dans un service de sécurité privé, s'ils ont eu une condamnation à leur casier, ils ne pourront pas l'exercer. S'ils veulent entrer dans la fonction publique, si la condamnation qu'ils ont subie, et là on touche au terme essentiel, n'est pas compatible avec l'exercice de la fonction, ils ne peuvent pas. Et ils se demandent pourquoi ce qu'on leur applique à eux, on n'applique pas aux hommes politiques. Et la notion centrale, c'est celle d'incompatibilité. Ce n'est pas le fait d'avoir payé sa dette à la société, ce que je prends complètement en compte, en fermant pas la porte à la possibilité de se réhabiliter, de se réinsérer. Mais c'est la notion psychologique d'incompatibilité. À partir du moment où on a commis une infraction qui définit qu'on a été incompatible avec la hauteur de la fonction qu'on occupait, on ne peut pas moralement, même si on a purgé sa peine, et si on a droit à la reconnaissance de ce fait, on ne peut pas prétendre à une virginité morale. On n'est pas dans l'exécution de la peine, on est dans l'exécution de la peine morale d'incompatibilité. Un pyromane, par exemple, qui a accompli sa peine, Vous allez le prendre comme sapeur-pompier? Non.
Théoriquement, non.
Non, parce qu'il y a incompatibilité. Un homme politique qui commet une prise illégale d'intérêt, vous allez le prendre pour gérer les affaires de l'État? Un homme d'État qui comme Cazeneuve, fraude d'une manière spectaculaire, une fois qu'il aura purgé sa peine, on va considérer qu'il est compatible avec le poste de ministre des Finances. C'est
vous
la notion de compatibilité qui compte.
Cazeneuve est à l'intérieur.
Vous avez dit Cazeneuve, il est ministre de l'Intérieur. Cahuzac. Oui, je vous ai appris parce que c'est pas connu de lui.
Excusez-moi.
Qui était ministre du budget à l'époque.
Allez, on va se retrouver dans un instant. Si vous voulez réagir sur le sujet, vous nous appelez au 0826 300 300. Faut-il obliger les élus à avoir un casier vierge? C'est la question de ce grand référendum. Il vous reste un petit quart d'heure, hein, jusqu'à midi, où vous votez sur sudradio.fr et vous laissez des commentaires. À tout de suite.
Sud Radio.
Le grand référendum. 11h, midi.
Philippe David.
Et oui, Philippe David est là pour le grand référendum. Comme tous les jours, 11h midi, ça se passe sur Sud Radio avec une question chaque jour. Aujourd'hui, faut-il obliger les élus à avoir un casier vierge? Vous nous le dites au 0826 300 300. Vous passez en direct sur l'antenne et sur sudradio.fr avec le vote, hein, qui est en cours et vos messages, bien sûr. Au téléphone, il y a Gisèle, mon cher Philippe. Bonjour Gisèle.
Bonjour Gisèle, bienvenue sur Sud Radio.
Bonjour tout le monde. Alors moi je voulais réagir par rapport à votre sujet bien entendu, mais ça se reporte aussi à celui que vous aviez fait avant, comme quoi les politiques ne sont pas du tout sur la même planète que nous. Alors dernièrement on a vu normalement, notamment ce cher monsieur Sarkozy, qui a regardé les journalistes droit dans les yeux lors quand ils ont fait leur débat sur la première primaire.
Oui.
Et qui a regardé les journalistes et qui a dit « Mais croyez-vous vraiment que je serais ici devant les Français à me représenter si j'avais quelque chose à me reprocher ?»
Oui, ça me rappelle Jérôme Cahuzac qui, devant la représentation nationale, disait qu'il n'avait jamais eu de compte en Suisse.
Voilà, voilà. Donc encore un politique qui n'est pas sur la même planète. Mais par contre, par rapport au casier judiciaire, lui... veto, hein, parce que bon, il a les bons avocats pour se faire payer. Par contre, ce que je reprocherais, c'est qu'en une fois de plus qu'ils ne sont pas sur la même planète, c'est que les lanceurs d'alerte, eux, ils sont mis plus bas que terre. Ils ont même plus de revenus, ils sont vraiment mis plus bas que terre. Et ça fait une justice encore à deux niveaux qui n'est pas cohérente. En fait, ce sont les lanceurs d'alerte qui sont punis et toujours pas les politiques.
Ah ben ça, merci beaucoup Gisèle de votre témoignage. Je vais faire réagir nos invités Vincent et Dain. Vous entendez Gisèle qui nous parle des lanceurs d'alerte. Eux, c'est sûr que la justice n'est pas toujours très cool. Vous me passerez l'expression avec eux.
Alors, je vais faire attention parce qu'il y a Gilbert Collard derrière, donc il va me reprendre sur ma doctrine juridique. Mais effectivement, le juge, il applique la loi et il dit « Vous avez obtenu vos informations par des moyens détournés, donc je vous condamne. » Mais c'est vrai que c'est incompréhensible parce qu'au nom de l'intérêt général, les gens qui ont sorti LuxLeaks ou Hervé Falciani qui a servi à déstabiliser HSBC, c'est des héros, on devrait les préserver. Or, on voit que les politiques les abandonnent. Je vois qu'on arrive vers la fin de l'émission. Je voudrais juste résumer d'un mot ma pensée. Le problème, c'est l'ordre de grandeur. Quand notre éditrice précédente
Gisèle.
Quand Gisèle nous dit ils sont pas sur la même planète que nous, elle a raison. Cet été en Suède, voilà, parce qu'on revient toujours sur les exemples scandinaves, mais ils ont pas tort. Cet été en Suède, il y a une jeune ministre qui s'est fait arrêter avec 0,3 g au volant. Bon, alors en France, on lui aurait dit que c'était pas assez, mais 0,3. Bon, elle a démissionné, elle s'est excusée. Je veux dire, voilà, la transparence là-bas pour quelques centaines ou pour quelques milliers d'euros, votre vie publique s'arrête parce qu'on considère que vous avez touché au bien public. Faut revenir aux ordres de grandeur. Dans l'affaire Big Malion, il y a 18 millions d'euros qui se sont
évaporés
dans la campagne. 18 millions d'euros, voilà, c'est extrêmement conséquent. Donc moi je suis pas juge, je sais pas lequel est coupable, mais enfin c'est vrai qu'il y en a un. Et il y a un moment où il y a une exaspération qui monte, qui est conséquente. Le Front National, ils ont aussi eu leurs affaires parce que lors des dernières élections.
Mais on va parler de votre livre après.
Non, mais lors des dernières élections, voilà, quand ils ont recours à Frédéric Chatillon et à la société Riwal qui vous fait des kits de campagne qui coûtent le triple de ce que ça coûte ailleurs parce que c'est remboursé et donc il y a de l'enrichissement personnel, là aussi c'est illogique que cette société ait encore le droit d'être dans le droit commun, enfin d'être de participer à d'autres élections alors qu'il y a des détournements qui sont à 6-7 chiffres, alors qu'encore une fois, on vous emmerde pour des échelles bien inférieures. Et puis je reprends juste l'exemple de Gilbert Collard et je m'arrête là-dessus, mais il dit bon quand même, si un député a pas payé sa pension alimentaire, c'est pas cool, mais pas de quoi l'ennuyer. Je croyais que Patrick Topalov était allé en prison pour non-paiement d'une... dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a une justice à 2-3 vitesses et c'est pas acceptable.
Philippe Gosselin, on va faire bref avec Philippe Gosselin et Gilbert Collard, parce qu'après on va parler un peu de votre livre Vincent Hédin. Quand vous entendez parler des lanceurs d'alerte, eux, la justice n'est pas très sympa avec eux en général.
Alors écoutez, le droit est en train de bouger actuellement. On a un texte à l'Assemblée nationale qui est en discussion et qui est en train de repositionner les sanctions, les condamnations contre ou à l'égard des lanceurs d'alerte. Donc vous voyez que là aussi, les choses bougent. Ça prend peut-être un petit peu de temps, mais l'intérêt des lanceurs d'alerte est de plus en plus reconnu, c'est évident.
Gilbert Collard, vous êtes pour, vous, qu'on protège les lanceurs d'alerte? Parce que vous mettez des
bombes. Je voudrais d'abord répondre à mon contradicteur pour lui dire que vraiment, il est d'une malhonnêteté juridique totale, parce que je sache, M. Chatillon n'est pas condamné. N'est pas condamné. De quel droit se permet-il de prononcer une condamnation avant que des juges aient pu juger? Je veux dire, c'est objectivement absolument scandaleux, alors qu'ici, des cas où il y a eu des condamnations, et que là, on n'a pas encore la moindre décision de justice, quoi. Il faut que cet homme redevienne raisonnable, même s'il gagne sa vie, honnêtement, en faisant des livres sur le Front National. Bon, alors, en ce qui concerne la pension alimentaire, je considère qu'un type qui est condamné pour non-paiement de pension alimentaire et qui rattrape le retard en remboursant, malgré la condamnation, s'il veut être candidat, il peut l'être, parce qu'il n'y a pas incompatibilité entre le fait d'en avoir pas pu payer une pension alimentaire pendant 3 mois et réparer en payant, et le fait de faire une prise illégale d'intérêt ou un détournement de fonds publics et d'exercer une fonction publique. C'est encore une fois...
Mais sur les lanceurs d'alerte.
C'est encore une fois... Non, mais je vais vous répondre. C'est encore une fois la question de compatibilité. Et ça, apparemment, mes contradicteurs ne veulent pas entrer dans le débat. Les lanceurs d'alerte, ils remplissent un service d'intérêt général. À partir du moment, et du reste une notion qui devrait être dans la loi, une sorte d'excuse absolutoire, on devrait mettre dans la loi que toute personne ayant agi dans l'intérêt général bénéficie d'une excuse absolutoire. Et il n'est pas dit que je ne dépose pas une proposition de loi en ce sens.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup.
Attends, j'ai une question à vous poser. Une dernière question à vous poser avant que vous me coupiez le sifflet. Est-ce que pour être journaliste, il faut un casier judiciaire vierge?
Non.
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 Ah bon?
Théoriquement,
ah bon.
Non.
Ah bon? Ah bon?
Mais bon, ça après, c'est au législateur, et vous êtes un législateur, Gilbert Collard, de faire la loi au cas où pour l'adapter. Merci beaucoup, Gilbert Collard. Merci beaucoup, Philippe Gosselin. Dernière ligne droite avec Vincent Hédin pour votre livre. En finir avec les fausses idées propagées par l'extrême droite, publiées aux éditions de l'Atelier. Alors, quelles sont ces idées fausses que vous dénoncez dans votre livre?
Je voudrais juste revenir sur un point, si jamais il m'écoute, parce que je sais qu'il est relativement procédurier. J'ai pas dit que Frédéric Chatillon avait été condamné. J'ai dit qu'on s'était rendu compte qu'il avait facturé ses kits de communication 2 à 3 fois. Après, la justice tranchera, mais vis-à-vis de la morale publique, c'est pas correct. Bon, je mets ça de côté. L'idée de faire... c'est une deuxième édition de ce livre qui avait paru une première fois en 2014. Là, on le ressort parce que l'an prochain, il y a des élections, et on voit que tout notre débat politique autour de la présidentielle est articulé autour des thématiques identitaires, des thématiques religieuses et des problématiques des migrants. Et ça, c'est les problématiques d'extrême droite qui dépassent, histoire de rassurer M. Collard, malheureusement, très largement le camp du seul Front National. Il y a beaucoup d'autres élus de formations dites républicaines, que ce soit d'ailleurs les Républicains ou le Parti Socialiste, qui s'abaissent à faire ce qu'on appelle de l'essentialisation et de la stigmatisation, pour aller très vite, origine ethnique non gauloise égale délinquance égale terrorisme, en gros.
D'accord. Eh bien écoutez, merci beaucoup Vincent Hédin. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant, auteur de l'ouvrage « En finir avec les fausses idées propagées par l'extrême droite » publié aux éditions de l'Atelier. Point final.
Point final avec Claire, évidemment, sur ce sondage de grand référendum. Faut-il obliger les élus à avoir un casier vierge? Vous nous avez dit combien de pourcents pour oui?
96%.